La gestion du temps, l'efficacité. Parce que c'est important de gérer son temps. Non? Donc on va essayer d'aborder tout ça. C'est un sujet complexe, il y a tellement de choses à en dire. J'ai juste envie de vous dire que la gestion du temps, c'est comme la construction de l'activité. L'efficacité, c'est quelque chose qui se travaille au quotidien, jour après jour. Notre activité, c'est pas un sprint, c'est une course de fond. Tous les gens qui essayent de faire des sprints sur le thème « deux semaines à fond, deux semaines au tapis, deux semaines à fond, deux semaines au tapis », c'est très compliqué. Et apprendre à gérer son temps, c'est comprendre que c'est un travail quotidien. C'est chaque jour qu'on va chercher à améliorer des choses pour optimiser ses résultats, augmenter son efficacité. Et on va essayer d'aborder tout un tas de choses au cours de cette intervention qui sont des éléments que moi j'ai pu mettre en pratique. Je me suis inspiré de pas mal de bouquins, de nombreuses interventions que j'ai écoutées de Michel, mon sponsor, et on va essayer d'aborder un certain nombre d'aspects. Mais je voulais commencer par vous dire que s'il y a un livre que je conseillerais à quelqu'un qui veut commencer à travailler sur son efficacité et sa gestion du temps, c'est le premier livre que je conseille à quelqu'un qui veut travailler sur le développement personnel et le fait de se remettre en question pour avancer, c'est l'effet cumulé. Ce livre, c'est vraiment pour moi un des premiers livres qui explique qu'il n'y a pas de secret. Ben, j'aime bien déjà, parce que des fois on voit des livres avec des titres extraordinaires en disant « voilà, vous allez découvrir le secret qui va tout révolutionner ». Ben, y a plein de gens qui ont lu ces bouquins, ça n'a rien changé, quoi. Alors que ce bouquin, il explique clairement que c'est des tout petits détails mis quotidiennement en place qui vont faire une différence. Et donc ce livre, c'est vraiment le bouquin que je vais conseiller à tous les gens qui veulent commencer un premier bouquin en parallèle de l'entreprise du 21e siècle sur le développement personnel, parce que améliorer la gestion de son temps et son efficacité, c'est d'abord prendre conscience qu'on a besoin de grandir. Et c'est vraiment un travail quotidien, je me répète, mais dès que quelqu'un pense être efficace ou avoir géré son temps, il peut vite régresser. C'est-à-dire qu'il faut en permanence être en train de chercher à s'améliorer. Alors le temps, il faut bien comprendre ce que c'est que notre métier. À mon sens, notre métier, c'est quoi? Quelle est la puissance de notre concept? Notre concept, c'est créer du temps de travail. Si vous avez conscience de ça, vous allez vous rendre compte que notre activité, elle est absolument géniale. C'est une activité où on va, pour 90-95% des gens au départ, démarrer à côté d'une autre activité professionnelle. Donc on a tous un rythme de vie au départ qui fait que on a peut-être 8 heures au travail minimum. On a 8 heures où on dort minimum, maximum pour certains. Mais on a du temps qu'on appellerait du temps incompressible et on se demande si le temps marginal qui nous reste à côté de nos activités professionnelles, on va le mettre dans ce projet parce que quand on démarre, on se dit voilà, j'ai déjà pas beaucoup de temps pour moi parce que je suis pris dans mon quotidien, dans ma routine avec tellement d'activités, ma vie familiale, etc. Est-ce que je vais prendre le peu de temps qui me reste pour l'investir dans une activité comme celle-ci? Et la vraie question à se poser, c'est est-ce que ça en vaut la peine? Est-ce que ça en vaut le coup de prendre ce temps marginal qui nous reste pour le réinvestir dans une activité comme ça? Et la réponse, elle est dans le fait de comprendre dès le départ qu'il y a du temps dépensé et il y a du temps investi. Qu'est-ce que ça veut dire? Et ce livre, L'entreprise du 21e siècle, traite très bien. C'est qu'il y a du temps qu'on va dépenser et il y a du temps qu'on va investir. Pourquoi? Parce que... Par exemple, dans une activité salariale, vous avez tous entendu ça, j'échange un nombre d'heures contre un revenu. Donc je dépense mon temps contre un retour financier. Et dans son cadran, il explique très bien qu'un entrepreneur traditionnel, il échange aussi son temps contre un revenu quelque part. Moi, j'ai le souvenir d'une des premières infos que Sabrina elle avait fait. Elle avait rencontré un type qui était chaudronnier, donc à son compte, dans le monde professionnel traditionnel. Il avait perdu l'usage de sa main, il avait un crochet à la place de la main, il pouvait plus assurer en fin de compte le fonctionnement de l'entreprise, que c'est lui qui avait le savoir-faire, en fin de compte le métier, et on lui avait demandé, il lui restait quelques semaines ou quelques mois avant que son entreprise dépose le bilan parce que il pouvait plus travailler. Et ça, c'est du temps dépensé. Par contre, il y a un certain nombre d'activités où on peut investir du temps. Et investir du temps, c'est comprendre que, par exemple, les études, c'est une forme d'investissement, puisqu'on va investir du temps en amont, pour pouvoir plus tard avoir un diplôme qui nous permet normalement d'améliorer notre situation future. Et moi j'estime que l'investissement dans les formations, comme aujourd'hui, comme les voyages à chaque fois, ça a été pour moi un des meilleurs investissements et financiers et en temps que j'ai pu faire pour grandir personnellement et augmenter ma valeur personnelle, pour devenir plus efficace. Dans notre activité, est-ce que vendre des produits c'est un investissement de temps? Moi je dirais oui. C'est une forme d'investissement puisque quelque part, je vais prendre de mon temps pour présenter, accompagner des gens sur l'utilisation d'une gamme de produits. Mais quand on part dans le principe qu'on a un produit qui est consommable et renouvelable, si on fait un bon travail au départ, eh bien, on va pouvoir avoir des renouvellements de commandes sans qu'on remette du temps. Ou plutôt, on va pouvoir avoir un chiffre d'affaires qui augmente en ayant un temps minimum investi. C'est-à-dire qu'on peut avoir plus de chiffre d'affaires en PV des fois en investissant moins de temps dans le temps puisqu'on a investi du temps au départ pour faire un travail de fond, d'accompagnement, de suivi pour que la personne connaisse bien le produit et que ça intègre ses habitudes alimentaires. Donc oui, pour moi, la création d'une clientèle, la vente de produits est une forme d'investissement de son temps. Mais par contre, le meilleur des investissements, c'est bien sûr la construction du réseau. Parce que là, c'est vraiment un temps qui est totalement investi dans le fait d'apprendre à des choses à des gens. Quand j'apprends quelque chose à quelqu'un, bah quelque part, si je prends pas mes associés trop bêtes, à côté de la plaque, normalement, je suis pas en train de répéter tous les mois la même chose. Vous pensez à quelqu'un, là? Mais a priori, les personnes, bien sûr, faut répéter. On est dans un métier de répétition. C'est pas parce qu'on l'a dit une fois que les choses sont intégrées. Mais quelque part, à un moment, on va trouver des gens qui ont envie de faire des choses et qui vont apprendre. Donc, on va investir son temps dans le fait d'apprendre des gens à faire des choses. Mais le principe même de notre profession est encore bien plus puissant que ça, puisqu'en fait, je vais former des gens à former des gens, qui eux-mêmes vont former des gens à former d'autres personnes. Donc je vais enseigner à des gens à enseigner à d'autres qui eux-mêmes enseigneront à des gens comment enseigner à des gens ce qu'on enseigne à des gens. Ça, c'est quand même génial, quoi, parce qu'en fin de compte, le temps que j'investis, il va se démultiplier. Et c'est là où on parle d'une démultiplication totale de notre temps. Mais pour ça, il faut bien en prendre la mesure dès le départ. En fait, il faut comprendre qu'un métier comme le nôtre nous permet à un moment d'exploser la barrière des 24 heures. Exploser la barrière des 24 heures, ça veut dire qu'à un moment, votre journée fera bien plus de 24 heures parce que la seule chose sur laquelle on est totalement égaux, c'est le fait qu'on a tous 24 heures par jour. Et ça, on pourra rien y changer. On n'est pas tous égaux au départ au niveau de notre relationnel, notre parcours, notre chemin à faire pour arriver au niveau zéro, mais on est égaux sur un point, c'est qu'on a tous 24 heures par jour. Mais par contre, avec cette activité, on va pouvoir créer du temps de travail. Regardez, il y a environ 60 personnes ici. Imaginons, demain, tout le monde fait une présentation du concept. C'est 2 heures ou 3 heures de travail. Ben, ça veut dire que ma journée, elle va faire, sans parler de tous les distributeurs de vos équipes, déjà 2 ou 3 fois 60 heures de travail, entre 120 et 160 heures de travail générées. Donc, ma journée fait plus de 24 heures. Moi, j'adore dans le livre « Aller au bout de vos rêves », quand il explique, voilà, ce qui est intéressant à comprendre, c'est cette notion de démultiplication. Imaginons, je démarre une personne chaque mois et cette personne démarre une personne chaque mois. Ça veut dire que le premier mois, on est 2, le deuxième, on est 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048, 4096, en 12 mois. Si chacun démarrait une personne par mois. Et quand on prend conscience de ce potentiel, on se dit, mais en démarrant juste une personne par mois et par personne, en un an, je pourrais avoir 4096 distributeurs. Est-ce que ça vaut le coup que j'investisse le peu de temps marginal qui me reste dans mon quotidien pour démultiplier mon temps à ce niveau-là? Parce que moi, mon objectif dès le départ, ça a été de me dire, mais j'investis ce peu de temps que j'ai pour en récupérer beaucoup après. Parce que pour beaucoup de gens, c'est un complément de revenu au départ, mais vu le dispositif qu'on a et les possibilités de revenus que sont les nôtres dans notre plan de commissionnement, il y a des gens qui très rapidement vont en faire une activité principale et de plus en plus. Donc oui, ça vaut le coup d'investir le peu de temps marginal si on est dans cette démarche de démultiplication de son temps. Et moi après, je me suis dit autre chose. Imaginons, je démarre une personne par an, ou plutôt j'aide une personne par an à faire star. Chaque année, j'aide un distributeur à faire star. Et ce distributeur, l'année d'après, aide une personne à faire star. Est-ce que ça vous paraît complètement délirant? Un star par an. Ben regardez, en 12 ans, ça me fait 4096 stars, quoi. Et 4096 stars, je faisais juste un petit calcul comme ça, ça fait juste, allez, 4096 fois 3000 PV, c'est énorme, ça fait 12 288 000 PV mensuels. Et 12 288 000 PV mensuels, vous savez, ça fait peut-être 1 million de commissions mensuelles. Ben, je me dis, là, ça commence à causer un peu. Et est-ce que ça vaut le coup d'investir une heure de temps en temps au départ dans son temps pour arriver peut-être un jour à ce type de revenu? Ça peut paraître délirant, mais le concept, il est là. C'est que vous allez investir votre temps pour le démultiplier et exploser la barrière des 24 heures. Le problème de fond, c'est chaque personne ici présente, elle est en train de se dire, oui, mais je suis en train de raisonner par rapport à la croissance linéaire des derniers mois ou par rapport à un ressenti émotionnel de ce qui s'est passé dans les 6 derniers mois. On se dit, bah, vu ce qui s'est passé dans mon groupe dans les 6 derniers mois, j'imagine pas que dans 6 mois ou dans 1 an, j'ai pu multiplier par 2, par 3, par 4, par 5, par 6 mon chiffre d'affaires. Mais ce que disait ma mère ce matin, c'est que quelque part, nous, on est passé de 10 000 PV qu'on a tenu pendant des mois et 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 des mois. Un jour, on a fait 20 000 et c'était en mois d'août. Et à partir de ces 20 000, on a fait 50 000 trois mois plus tard. Et sept mois plus tard, on était à 117 000 PV. Bah, est-ce que ça, on l'avait prédit? Non, mais pourquoi? Parce que quand on a mis les fondations en place, quand on a appris à des gens à faire des choses, quand ce temps-là se démultiplie, il peut se passer des choses absolument gigantesques. Mais il faut y croire et il faut se mettre dans cette position où votre temps, à un moment, va exploser bien plus vite que ce que vous pouvez imaginer qu'il puisse se passer. Et ce qui est génial, et c'est ce que Michel cite toujours, c'est dans cette activité, on a la possibilité de doubler ses revenus. Qui a la possibilité, dans son activité principale, de doubler ses revenus comme ça? Moi, ce qui me motive, c'est de savoir quand est-ce que je vais doubler mes revenus. Et moi, ce qui me motive, c'est que je voudrais bien qu'ils doublent dans les 1 à 2, voire 3 mois. Parce que avec le voyage à Marrakech, après la journée qu'on va vivre, avec la commande en ligne, suite à l'émission de télé, le livre qui va commencer à faire tout ça, moi, je me dis, dans très peu de temps, on va doubler nos revenus et sans forcément doubler notre dose de travail. Alors, est-ce que ça vaut le coup de travailler dur pour ça? Je sais pas. Mais si je passe de 10 000 à 20 000 euros, ça veut dire que sur un an, je passe... Mon entreprise a 240 000 euros de commission annuelle. Bah, 240 000 euros de commission annuelle, je regardais un truc hier sur Internet, c'est quel est le revenu moyen d'un Français moyen? Vous savez? C'est 2410 euros brut. Alors on va le laisser en brut, puisque nos commissions c'est aussi brut, il y a des charges dessus. Ça veut dire que si je fais le calcul, je vais gagner, quand je gagnerai deux fois ce que je gagne actuellement, c'est-à-dire dans très peu de temps, je vais gagner en un an ce qu'il me faudrait 8 ans et demi à gagner dans le monde traditionnel, si j'étais un Français moyen, ce que je suis tout à fait à l'origine, puisque je démarre cette activité sans aucune compétence, diplôme, ressources, expérience. Donc est-ce que ça vaut le coup de s'énerver un peu pour gagner en un an ce que certains gagnent en 8 ans et demi? La réponse est oui. Est-ce que ça vaut le coup d'y investir un temps marginal au départ dans cette activité? La réponse est oui. Pourquoi vous croyez qu'on organise une après-midi comme ça? Bah, tout simplement parce que ce que je veux, moi, c'est investir mon temps dans le fait d'aider des gens à devenir plus compétents, avoir une meilleure attitude, à être des gens qui font des choses réellement. Parce que ce que je veux, c'est travailler avec une équipe de guerriers qui sont vraiment à la manœuvre. Pourquoi? Parce que c'est la différence entre un type qui est un agitateur un peu dynamique qui est en train de faire tourner les assiettes. C'est-à-dire que vous connaissez souvent ce numéro au cirque où il y a un gars, il fait tourner une assiette sur un piquet, puis une deuxième, puis une troisième, puis une quatrième, puis une cinquième, puis une sixième. Puis une fois que la sixième est lancée, faut vite retourner à la première avant qu'elle tombe. Eh bien, l'objectif, il est pas là. Parce que moi, ce que je veux, c'est une équipe de gens qui sont vraiment en train de faire les choses. Parce que moi, je fais pas toujours bien les choses, mais je préfère les faire que de réfléchir à comment mieux le faire. Parce qu'il y a des gens qui font réellement les choses pendant que d'autres sont en train de réfléchir à comment ils pourraient bien faire. Il y a cette vieille blague qui dit qu'un con qui marche va toujours plus vite que deux intellectuels assis. N'est-ce pas? Non mais sincèrement, des fois on voit des gens qui sont en train de se prendre le chou pour savoir comment ils vont pouvoir avoir la meilleure stratégie, le meilleur plan d'action, et à côté il y a des gens qui se posent pas de questions et qui font les choses. Et c'est ça que je veux, c'est pour ça que ce type de réunion est importante pour moi, pour que les gens qui ressortent d'ici, ils disent « Ok, on va vraiment passer à l'action avec un concept comme ça et on va pouvoir exploser la barrière des 24 heures ». Et c'est là que l'exponentialité se met en route. C'est là que prend tout le sens de cette activité, parce que le temps n'a plus la même importance. C'est ça le paradoxe du temps. Regardez, question. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que le temps passe plus vite depuis que vous avez démarré cette activité? C'est une question, hein. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que les semaines, les mois vont beaucoup plus vite? Bah, c'est sûrement parce qu'il se passe plein de choses, parce que vous rencontrez des gens, parce que c'est passionnant, parce qu'on apprend des choses, on rencontre des gens qui ont différentes professions, différents métiers. On n'est plus dans une routine ou dans un schéma classique. Donc le temps passe plus vite. Quand j'avais 24 ans, je disais j'ai 24 ans et je suis pressé. Mais aujourd'hui, j'ai 29 ans et je suis pressé. Pourquoi? Parce que Michel, il cite souvent cet exemple, mais moi, je me rappelle très bien avec Sabrina avoir cette conversation avec un ami de longue date de Fabrice et de ma mère et de Michel, qui est Jean Fels. Ben, la première fois que j'ai été faire un séminaire dans le sud de la France, on a été avec Sabrina invité chez Jean Fels au Castellet, où il avait une belle maison qui avait été payée par son papa, qui appartenait à sa sœur, et lui, il en avait une à Paris. Et il nous expliquait qu'en fin de compte, un jour, il avait, pendant ses études, voulu prendre une année sabbatique, une année de pause pendant ses études. Et il en discute avec son papa, et son papa lui dit, bah, tu vois, pendant les 12 dernières années de ma vie où j'étais médecin, parce que lui était médecin, je me suis payé une maison comme ça. Donc si tu prends un an de repos pendant tes études, c'est pas un an que tu perds, c'est une maison. Tu as demandé à Michel s'il aimerait perdre un an des revenus qu'il a actuellement. Ça lui ferait tout drôle. Mais c'est une maison qui perd. Et il nous expliquait ça, et quelque part, le temps c'est quelque chose qui est très subjectif, parce que quelque part... Regardez, est-ce que le temps passe plus vite à certains moments qu'à certains autres? Par exemple, si vous êtes amoureux de quelqu'un et que vous attendez pendant 10 minutes et que la personne n'arrive pas, est-ce que c'est long? Ben oui. Par contre, si vous avez une intervention extrêmement stressante à faire, il vous reste plus que 10 minutes avant de passer sur scène. Ben ça va beaucoup plus vite. Regardez, il y a des gens qui travaillent pas et qui se demandent, ils se disent, ouais, je travaille pas mais j'ai pas le temps de faire quoi que ce soit. Et il y en a d'autres qui travaillent énormément et qui trouvent le temps de faire autre chose. Parce que le temps, c'est quelque chose de subjectif et c'est ça le paradoxe du temps. Nous, on cherche des gens occupés, des gens qui font des choses. Parce que les gens qui ont le moins de temps savent le mieux l'utiliser. Mais je vous dis tout ça, c'est juste pour vous preniez conscience que le temps, c'est quelque chose qu'on a besoin de maîtriser. Mais pour maîtriser son temps, il y a un sujet auquel on revient souvent, mais c'est vraiment la première des démarches, c'est se dire comment je veux utiliser mon temps. Et pour ça, il faut savoir pourquoi je veux faire les choses. Parce que si je sais pourquoi je fais les choses, j'utiliserai mon temps différemment. Si je sais pas ce que je veux vraiment, je ne vais pas apprendre à maîtriser mon temps. C'est pas possible. C'est comme si vos 24 heures c'était un camembert et qu'il faut que vous décidiez comment utiliser ce temps. Imaginez que ce camembert de 24 heures est totalement disponible, sans contrainte. Comment vous utiliseriez votre temps? Et il faut travailler sur ce que j'intitulerais votre projet de vie, quoi, quelque part. Ça se concrétise par un cahier de rêve. Mais qu'est-ce que vous avez vraiment envie au fond de vous? C'est ça la vraie question de fond. Qu'est-ce que vous voulez vraiment faire de votre vie? Imaginons, et j'aime beaucoup d'ailleurs ce film, il vous reste plus que 6 mois à vivre. Vous avez vu le film Sans plus attendre? C'est deux personnes qui sont malades dans un hôpital et puis font une liste de tous les rêves, de toutes les choses qu'ils aimeraient faire. Et puis il y en a un, il dit, bah, c'est trop tard, il ne reste plus que 6 mois à vivre. Et l'autre, il dit, c'est pas trop tard, on va les faire. Bah, imaginons là, il vous reste 6 mois, on vous annonce, dans 6 mois, c'est fini. Est-ce que vous continuez à faire exactement la même chose que ce que vous faites aujourd'hui dans votre quotidien? Ah, par exemple, aller au boulot, c'est un truc qui est vraiment dans votre existence capitale et vous continuez pendant les 6 prochains mois à faire ces choses-là parce que c'est vraiment important. Oui? Non? Est-ce que le temps de trajet entre chez vous et le boulot, c'est un truc vraiment qui vous motive, qui est exaltant depuis des années? Est-ce que si vous aviez plus que 6 mois à vivre, c'est un peu macabre, je vous l'accorde, mais est-ce que vous feriez les choses de la même façon ou pas? Et si vous restez plus que 6 mois à vivre et vous avez la possibilité de réaliser 100 projets, ce serait quoi? Voilà, à un moment, il faut prendre ce temps pour se dire, ok, si j'avais tout mon temps, est-ce que je suis capable de noter 100 objectifs, 100 projets, 100 rêves sur une feuille? 100 choses que j'aimerais vraiment réaliser. Pas 2, 3 ou 4, mais si je me dis, vraiment, je vais faire cet effort d'aller chercher au fond de moi ce qui me motive vraiment. Mon projet de vie, mon projet personnel. À partir du moment où j'ai ce projet, vous allez voir que le temps s'utilise différemment. Et il faut savoir après ces projets les classer dans différentes catégories. Par exemple, il y a une première catégorie qui va être forme, bien-être, santé. Est-ce que je prends du temps pour prendre soin de moi? Est-ce que je fais du sport? En plus, dans une activité comme la nôtre, c'est quand même un peu mieux de pouvoir s'entretenir. Et puis, ce serait dommage d'être immensément riche si c'est pour pas en profiter longtemps. N'est-ce pas? Donc ça, c'est une première catégorie. Est-ce que j'y investis du temps? Est-ce que j'y investirai plus de temps? Il y a une deuxième catégorie, ça va être professionnel et financier. Voilà, parce qu'il y a réussir sa vie et il y a réussir dans la vie. Est-ce que c'est important pour moi de gagner plus d'argent, d'avoir une carrière? Comment je le ferai? Combien de temps j'y investirai? Il va y avoir une autre catégorie, peut-être, ça va être famille, enfant, conjoint. Voilà, et je pense que c'est important. Toute personne normalement constituée a besoin de passer du temps dans ce domaine-là. Et je pense qu'il faut un équilibre. Moi, j'aime beaucoup cette intervention de David Douillet au Weekend Star parce que c'est une des rares interventions où il traite cet aspect de « ça se passe aussi derrière le rideau ». C'est-à-dire qu'il n'y a pas un équilibre familial et personnel, si on est déséquilibré dans un des domaines, bah c'est compliqué. Combien de temps j'investirai dans cette partie-là? Familiale, sentimentale, enfant, couple. Après, je vais peut-être avoir une partie culture, spiritualité et formation. Voilà, est-ce que je vais prendre du temps pour lire? Est-ce que je vais prendre du temps, si je suis croyant, pour ma spiritualité? Est-ce que je vais prendre du temps pour me poser des questions? Après, je vais peut-être avoir une autre catégorie, c'est loisirs. Combien de temps je prendrai pour mes loisirs personnels? Quel qu'il soit. Voilà, si j'avais tout mon temps, comment je classifierais ces différentes choses? Il y a peut-être après la partie relationnelle, la partie sociale, amis, copains, voilà, toute cette partie-là, associatif. Et l'idée, c'est que si je sais vraiment ce que je veux faire de ma vie, si je le vois, si je le visualise, ben, je vais pouvoir mettre des priorités aux priorités. Parce que souvent, on ne sait pas où mettre nos priorités, parce qu'on n'a pas vraiment déterminé ça. Et il faut que vous preniez du temps pour chaque chose. Je dis pas de mettre de côté une des catégories ou l'autre pour l'activité NL. Là, je vous parle de faire le point avec vous-même sur votre projet de vie et comment vous le voyez. Et à partir de là, vous n'allez plus avoir ce qu'on a souvent, c'est des conflits de temps. Voilà, je peux pas être au four et au moulin. J'aimerais bien être avec mes enfants davantage, mais en même temps, il faudrait que je gagne plus d'argent pour les rendre heureux et pouvoir gérer mon quotidien. J'aimerais bien gérer mon quotidien, mais en même temps, je ne vais pas avoir mes enfants suffisamment. Et on est toujours en train d'être tiraillé en ces différentes choses-là. Donc il faut vraiment savoir pourquoi on fait les choses, parce que ça va déterminer comment vous allez investir ou dépenser votre temps dans les différentes catégories et dans les différents domaines de votre existence. Et c'est vraiment quelque chose de très important que d'arriver à maîtriser cette gestion de son temps. Michel, il cite souvent cette phrase d'Honoré de Balzac qui dit que le temps est le seul capital des gens qui n'ont que leur intelligence pour fortune. Et quelque part, il faut apprendre à maîtriser ça parce que c'est ce qui va vous permettre d'avancer. Alors après, il faut faire attention à un aspect, c'est tout ce qu'on appelle les voleurs de temps. Il y a des choses qui nous font perdre du temps, inutilement, qui nous volent notre temps. Alors du temps, on peut en récupérer déjà. On peut en récupérer, un premier aspect assez simple. Par exemple, on peut se lever un peu plus tôt le matin. Par exemple, à 9h au lieu de 10h. J'en sais rien, moi ça dépend, mais ça peut être une façon de récupérer. Imaginez une heure de temps tous les jours récupérée sur son temps de sommeil qui est parfois pas nécessaire et qui vous permet, bon je vous l'accorde, tout le monde n'a pas besoin encore de récupérer du temps, mais c'est un aspect intéressant pour les gens qui cherchent à avoir plus de temps. Après, il y a le fait peut-être de déléguer certaines choses. Je sais pas, après, il y a peut-être des gens ici qui ont des gens qui s'occupent d'un certain nombre de tâches à leur place. Quand on a les moyens, si on peut avoir une femme de ménage qui gère un certain nombre d'aspects, ça nous permet de récupérer du temps pour faire autre chose ou pour le jardin. Pour la voiture, hein, Michel, je sais qu'il a quelqu'un qui vient nettoyer sa voiture chez lui, c'est du temps de gagner, pour pouvoir l'utiliser et l'investir différemment. Donc il y a un certain nombre d'aspects. Nous, par exemple, à la maison, on a la chance que la sœur de Sabrina soit là pour s'occuper de Léo, jusqu'au mois de juin, donc depuis quelques mois. Bah, quelque part, c'est beaucoup de temps que ça nous permet de réinvestir ailleurs, parce que si elle n'était pas là, bah, ça serait compliqué. Donc vous avez des possibilités de récupérer du temps, mais sinon, il y a vraiment des voleurs du temps sur lesquels il faut faire attention. Alors quel est le voleur de temps numéro un et principal ? La télé. La télé, c'est un voleur de temps majeur. Vous savez combien regarde la télé un Français moyen en 2012 ? Alors, il regarde la télé déjà 26 minutes de plus qu'en 2011, par jour. Et ça, c'est pour tous les gens qui vous diront « je n'ai pas le temps ». Il regarde la télé en moyenne 3h50 par jour, 365 jours sur 365. Donc, ça veut dire qu'il y a des gens qui en regardent beaucoup plus quand je vois la tête que vous faites, parce que vous ne regardez pas la télé. Ça veut dire que c'est une moyenne. C'est-à-dire qu'un Français moyen, en 2012, regardait 3h50 la télé par jour. Ça veut dire que sur 100 ans, ça fait 15 ans de son temps qu'il passe devant le petit écran. C'est ce qui donne des baleines de canapé. Des gens qui, voilà, prennent du poids et sont en train de se laver le cerveau parce que aujourd'hui, la télé, c'est quelque chose qui nous enlève encore, quand même, quand on la regarde régulièrement, beaucoup de libre arbitre et beaucoup d'intelligence. Quand on voit les émissions et les informations qui passent à la télé, on parlait encore avec Michel tout à l'heure de la capacité des médias à complètement manipuler la façon de penser des gens, les amener vers le négatif, etc. C'est dramatique. Donc là-dessus, vous pouvez vraiment gagner du temps. 3h50 par jour. Rappelez-vous de ça à chaque fois que quelqu'un vous dit « j'ai pas le temps ». Donc après, vous avez un autre voleur de temps important qui est plus récent, lui. C'est tout ce qui touche à l'Internet. Parce que sur Internet, il y a des gens qui sont collés sur des sites. Il y a des jeux online, par exemple. Nous, on a des gens, et de tout âge, dans le réseau, des fois qu'on a perdu parce qu'ils étaient concentrés sur des jeux style World of Warcraft, des trucs comme ça, où là, tu rentres carrément dans un monde où tu deviens complètement addict d'un système où tu es en train de te construire un monde à l'intérieur de l'Internet. Parce que l'Internet, c'est comme la télé. Regardez, est-ce que vous avez déjà vécu devant la télé des grands moments dans votre vie, quoi ? Des trucs, c'est vraiment l'extase totale, tellement ça a changé votre vie, vous avez encadré ce moment de télévision. Ben non, et sur Internet, c'est la même chose. Regardez, tous les gens, par exemple, un truc qui est un voleur de temps sur Internet, c'est Facebook. Facebook, c'est un truc où, je sais pas si c'est les gens qui sont voyeurs aujourd'hui, mais on passe un temps fou à aller regarder les informations mises par les autres, qui d'ailleurs, des fois, sont des informations exaltantes, motivantes, enrichissantes, n'est-ce pas ? Sur le thème « j'ai pas le moral ce matin » ou des trucs comme ça, mais... Entre y aller une fois de temps en temps, et moi je nourris mon Facebook avec des choses justement que j'essaye de mettre un peu plus positives, parce que je sais qu'il y a tout un tas de gens qui sont devant leur écran, et que je peux avoir en contact de cette façon-là, mais c'est un véritable mangeur de temps. Il y a des gens qui passent des dizaines de minutes, voire plusieurs heures par jour, rien qu'en se nourrissant d'informations comme ça. Jean-Claude Martini parlait de la notion d'infobésité. C'est qu'on a besoin de se nourrir d'informations négatives, et Facebook c'est dramatique. C'est un des voleurs de temps. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre comme voleur de temps ? Quelqu'un qui parle trop. Alors le téléphone, un grand sujet. Oui, le téléphone, c'est un voleur de temps fondamental. Parce que le téléphone, c'est l'outil de travail le plus important que nous ayons. Il faut savoir avoir un forfait qui fonctionne et l'utiliser, mais le téléphone, c'est un voleur de temps dramatique. Quelques petits conseils sur le téléphone, parce que je trouve que c'est intéressant. C'est important quand quelqu'un vous appelle deux fois de rappeler rapidement, parce que sinon c'est pas cool et ça fait mauvais genre. Voilà, si quelqu'un vous laisse un, deux messages, bah faites en sorte d'être disponible et prendre le temps de rappeler. C'est important sur le téléphone d'avoir des messageries qui tiennent la route. C'est quand même votre image de marque. C'est vrai que des fois, si je dis vous êtes sur la messagerie de Nicolas Fleury ou des trucs encore plus délirants, bah c'est moyen, parce que c'est l'image de marque de votre entreprise. Après, ce qui est très important à comprendre, c'est qu'un coup de téléphone, ça se prépare. Moi, j'appelle jamais Michel sans avoir une liste de choses à faire, à traiter avec lui. Et des fois, quand j'en ai qu'une, j'attends plus tard, parce que je me dis, de toute façon, il y a d'autres choses qui vont venir, et j'ai un papier sur lequel il y a marqué Michel à chaque fois à côté de moi, et tous les points que j'ai besoin de traiter, il y a point numéro 1, point numéro 2, point numéro 3, point numéro 4, point numéro 5. Et en fait, il y a deux types de coups de fil. Il y a le coup de fil, on va dire, informatif, et il y a le coup de fil relationnel. Souvent, on passe trop de temps au téléphone à raconter notre vie. Donc, le coup de fil informatif, c'est un coup de fil. Moi, en une heure, j'en fais 20 ou 30. Qui dans cette pièce m'a au moins une fois par semaine? Approximativement. Quelques-uns. Et pourtant, j'ai quand même pas mal de monde au téléphone. Pour moi, il y a le coup de fil qui va durer 5 minutes où on va à l'essentiel, etc. Et il y a le coup de fil relationnel qui, là, va être plus un coup de fil, des fois, qui va nécessiter un peu plus de temps. Par exemple, je fais la promotion avec quelqu'un d'un événement sur lequel je veux qu'il vienne. Je vais pas forcément le faire quand j'ai 5 minutes. Je vais avoir le temps de poser les choses, de discuter avec lui, d'échanger, d'être en possession de tous mes moyens. Par contre, la plupart du temps, je vois des gens qui appellent pour ne rien dire. Voilà, ils appellent et puis des fois, ils me disent « Ah ben, je sais plus pourquoi je t'appelais ». Et là, je dis « Ben, moi, j'ai autre chose à faire, quelque part ». Le sponsor ou la lignée n'a pas pour objectif d'être votre deuxième cerveau. Ben, des fois, il y a des gens qui m'appellent et me disent « C'est quand la date de quand ?» Ben, je dis « Je sais pas, tu as un site internet, tu cliques à IPME, tu mets ton identifiant, tu mets ton mot de passe, tu cliques « Valider », tu as un agenda, tu le télécharges parce que moi, j'ai autre chose à faire ». Mais c'est très, très régulier. Donc, ni votre deuxième cerveau, encore moins votre premier cerveau, si vous voyez ce que je veux dire. C'est important vraiment de comprendre que chacun doit prendre son temps en main et faites attention à ce vol de temps qui est fait par le téléphone. Ce qui est important dans le téléphone, des fois, c'est de reporter le flux des appels à un moment où vous avez plus de temps. Des fois, on perd du temps au téléphone alors qu'après, on va partir en voiture. Et là, au cours de ce trajet en véhicule, on va pouvoir plus facilement passer des coups de fil. Et moi, j'aime bien passer des coups de fil quand je suis en voiture parce que je suis en mouvement. Je suis dans une dynamique, donc je suis dans un élan. Donc les gens, ils le sentent que je suis en train de bouger, de faire quelque chose. Donc des fois, je préfère dire à la personne, écoute, on peut se rappeler dans 10 minutes ou dans un quart d'heure parce que je serai en voiture et je reporte le flux de mes appels à un moment où je serai dans un meilleur état d'esprit pour communiquer. Mais surtout, il faut apprendre à un moment à stopper l'appel ou à stopper le coup de fil quand la personne elle est trop longue ou quand vous avez plus de temps, vous avez autre chose à faire. Moi, j'ose, faut apprendre à dire non. Dire voilà. Écoute, je suis obligé de te laisser parce que j'ai un appel prioritaire. Je suis obligé de te laisser parce que, avec beaucoup de tact, de diplomatie et de gentillesse, mais à un moment, il faut savoir dire stop. Et c'est pareil au téléphone, mais il y a un autre type de communication, c'est les gens en direct. Alors, rien de plus dramatique qu'une perte et un voleur de temps de quelqu'un qui vous explique, par exemple, en 10 minutes, comment il a fait un contact à froid. Il n'y a rien de plus dramatique que la personne qui commence à dire, voilà alors, hier, tu sais pas ce qui s'est passé, je suis sorti de chez moi pour aller acheter du pain. Et puis, en sortant de chez moi pour l'acheter du pain, j'ai croisé une voiture et ça m'a fait penser à quelqu'un, ce quelqu'un que j'ai rencontré la semaine dernière, mais c'est pas de lui dont je voulais te parler. Et là, on n'a pas encore rencontré le personnage principal, qui s'est déjà écoulé 6 ou 7 minutes, et il faut qu'on aborde le sujet. Et là, ça devient très compliqué, parce que on n'aime pas non plus que ça à faire, le temps, notre temps à nous, il fait que 24 heures par jour. Et dans ces 24 heures, il y a des incompressibles. Donc on peut pas se permettre de perdre du temps inutilement. Donc il faut apprendre à raccourcir ses coups de fil, mais à raccourcir aussi sa communication avec les gens. C'est-à-dire qu'un rendez-vous, il a un début et il a une fin. Moi, dès le début du rendez-vous, souvent je dis à la personne, voilà, il est telle heure, et puis on a jusqu'à telle heure ensemble. Ça évite de se faire manger du temps par les gens. Parce que c'est notre responsabilité de gérer notre temps. C'est à chacun d'entre nous de pas se laisser voler le temps par quelqu'un d'autre parce qu'on l'a laissé faire. Donc un début et une fin pour un rendez-vous. Et c'est vrai que des fois, il y a des gens, un peu dur de dire ça, mais il y a des personnes lentes et bavardes qui sont incapables de perdre leur temps tout seuls, donc ils vont venir le faire perdre à des gens réellement occupés. Donc j'espère que vous ne serez pas dans cette catégorie-là et que vous allez pouvoir apprendre aux gens à recadrer les choses gentiment pour pouvoir gagner du temps à ce niveau-là. Et comment gagner du temps et éviter les voleurs de temps? Ben, il y a trois choses. Apprendre à déléguer, à construire des relais, savoir dire non, et faire preuve de discipline sur tous ces aspects-là. Apprendre à déléguer, à avoir des relais, savoir dire non, et faire preuve de discipline. C'est ce qui va vous permettre de pouvoir combattre les voleurs de temps. Et il y a un dernier aspect qui est un voleur de temps considérable, et qui est très important à travailler, c'est nous-mêmes. Nous sommes nos premiers voleurs de temps. Et pour combattre ce voleur de temps, il faut tout simplement faire quelque chose que Michel a traité de nombreuses fois et que je fais régulièrement, c'est apprendre à prendre un rendez-vous avec soi-même. C'est-à-dire qu'on prend le temps de prendre des rendez-vous avec ses clients, avec ses associés, avec sa lignée, mais il y a plein de gens qui passent à côté du fait de prendre du temps avec soi pour donner du temps au temps. Parce que vous allez être bien plus efficace en apprenant à faire le point avec votre propre temps à vous. La personne la plus importante, c'est vous-même. C'est la personne qui est assise à votre place et c'est celle qui doit maîtriser tout ça. Et pour ça, il va falloir apprendre à prendre un rendez-vous avec soi-même régulièrement. Je dirais même qu'il y a trois types de rendez-vous à prendre avec soi-même, mais à le prendre dans l'agenda, hein, quasiment. C'est-à-dire, voilà, de telle heure à telle heure, je prends un rendez-vous avec moi. Je dirais, il y a un rendez-vous quotidien, 30 minutes par jour, le soir ou le matin. Il y a un rendez-vous hebdomadaire, et il y a un rendez-vous mensuel et surtout annuel. Et ce rendez-vous avec vous-même, il va vous permettre de gérer deux choses. La gestion de votre temps mental et la gestion de votre temps physique. Et ces deux gestions-là sont importantes. La gestion du temps physique, elle se gère tout simplement avec un outil classique, basique, évolutif, qui est tout simplement l'agenda. Il faut apprendre à avoir un système organisationnel. Alors là, après, pour chacun, ça va être différent. L'important, déjà, c'est que vous preniez conscience de tout ça et que vous puissiez travailler votre propre fonctionnement. Parce que tout le monde ne fonctionne pas de la même façon. Moi, pendant des années, j'ai fonctionné avec un agenda papier. Et puis un jour, on s'est retrouvé avec un seul véhicule avec Sabrina. On était à Ouzouville, à la ville, enfin un petit peu décalé quand même, de quelques kilomètres, on va dire à la campagne, et avec un seul véhicule et Léo. Et c'était compliqué parce qu'à chaque fois que je prenais un rendez-vous dans mon agenda, je rentrais, et puis elle avait besoin de la voiture, et puis ça a été le bazar. Et donc je suis passé à l'agenda électronique. Pourquoi ? Parce qu'avec mon agenda électronique, dès que je mets quelque chose dessus, il arrive dans l'agenda de Sabrina. Il arrive sur toutes les bécanes qu'on a à la maison, les ordinateurs, les téléphones, et comme ça, ça m'a permis de gérer mon temps différemment. C'est pour ça que je vous dis, la gestion du temps, c'est un travail quotidien et qu'on peut faire améliorer à tout point de vue. Donc j'utilise un agenda électronique. Et cet agenda électronique, il faut absolument que je puisse y voir l'année dans sa globalité. Parce que le premier rendez-vous à faire, dès demain si vous le décidez d'avoir une action sur cet aspect, c'est de prendre un rendez-vous avec vous-même pour voir sur l'année toutes les dates importantes. Et je vais commencer par regarder mon agenda sur l'année et d'y noter voilà des échéances fondamentales. Puis à côté de ça, si j'ai les dates, je vais commencer à noter les séminaires. Je fais une priorité du système de formation, donc ça je le cale. Et après, une fois que j'ai tout ça, je peux caler le reste de mon activité. Ça c'est les échéances fondamentales. Ça c'est mon rendez-vous avec moi-même pour planifier l'année. Mais après, j'ai un rendez-vous qui se fait chaque semaine. Pourquoi ? Parce que si j'ai pas planifié ma semaine une semaine avant, elle est foutue. C'est-à-dire que si demain matin vous n'avez pas planifié déjà votre semaine, elle est foutue. T'as pas le temps du jour pour le lendemain de caler un atelier culinaire, une information concept, etc. Donc la clé, c'est de faire preuve d'anticipation. C'est de pouvoir travailler en amont ce qui va se passer sur la semaine d'après. C'est-à-dire que demain, je vais travailler la semaine qui va être du 13 au 21 ou à peu près mai. C'est-à-dire que j'ai toujours une semaine d'avance sur ma planification. Mais je garde toujours des créneaux de libre pour l'imprévu. Il faut planifier l'imprévu dans son temps. Parce que si tout est bloqué, demain vous rencontrez un super prospect, vous pouvez pas prendre le suivi, vous êtes dans une mauvaise gestion du temps. Parce que vous avez plus de temps pour les priorités de l'imprévu et du quotidien. Et puis surtout, il y a la planification quotidienne, c'est tous les soirs ou tous les matins, je planifie ma journée ou celle du lendemain. Parce que si je veux optimiser mon temps, il faut que je sache ce que j'ai à faire et quand. Est-ce que ça vous parle là-dessus ? Je voulais juste vous communiquer quelques petits trucs sur ce que j'utilise moi comme outil. C'est-à-dire application ou autre, hein, c'est des petits trucs. Alors malheureusement, il y en a un certain nombre peut-être qui ne fonctionnent que sur les Mac. Voilà, j'utilise un agenda électronique. Mais vous avez aussi ça sur Gmail, a priori, ou sur peut-être d'autres programmes. J'utilise Dropbox. Dropbox, c'est un outil gratuit au départ, sauf si vous voulez plus de stockage, mais qui me permet d'avoir toutes mes données ici, dans mon téléphone, dans toutes les bécanes, parce que j'enregistre en fait tous mes documents et tout mon ordinateur est enregistré en ligne. Ce qui me permet de me retrouver n'importe où sur la planète et de ne pas avoir besoin d'un document. Et de pouvoir en plus partager des documents rapidement et facilement avec tous les distributeurs de mon réseau. Donc ça, c'est un gain de temps pour moi, un gain de temps physique. J'utilise un truc qui s'appelle 1Password depuis peu, qui est c'est juste pour Mac, mais c'est un truc qui est génial parce que ça, c'est aussi pour la gestion de mon temps mental. C'est un programme qui permet d'avoir un seul mot de passe pour tout. truc un peu révolutionnaire. Au lieu d'avoir un truc pour sa carte bleue, un truc pour ses sites internet, un truc pour Enel, un truc pour IPME, un truc pour... J'ai un mot de passe. C'est tout. Donc ça, c'est un truc qui me permet de gagner du temps mental. Et en même temps, du temps physique. J'ai un autre programme qui s'appelle OmniFocus, qui est un espace de gestion des projets, et je vais revenir dessus juste après, qui me permet de vider toutes les actions que j'ai besoin de faire. Et puis surtout, pour gagner du temps, je fais des listes pour les mails. C'est-à-dire que je suis pas en permanence en train de, je vais envoyer un mail à temps, je vais chercher toutes les adresses. Dans, quels que soient d'ailleurs les mails que vous utilisez, vous avez forcément la possibilité de créer des listes. Et ces listes, elles vont vous permettre de gagner du temps, à condition régulièrement d'y enregistrer les nouveaux distributeurs. C'est un travail quotidien ou hebdomadaire qui permet de renregistrer dès qu'il y a des nouveaux dans votre base de données, les nouveaux. Et moi, je les ai par région, je les ai par groupe, etc., par qualification. Comme ça, je sais que j'ai besoin d'une info, tac, ça part à telle liste. Et pour les textos, j'ai aussi un outil texto groupe. Ça me permet de gagner du temps, encore une fois. Ça s'appelle Contact XL, Contact au pluriel XL. Et en fait, vous créez une liste. Voilà, je sais pas, par exemple, les gens de Caen. Il y a une info à Caen. Je sais que le texto aujourd'hui, vous connaissez le temps de lecture d'un texto ? Connaissez le temps de lecture d'un mail ? Un mail, en moyenne, il est lu en 10 minutes maintenant, ce qui est rapide avec les smartphones et tout ça. Un texto, le temps moyen d'ouverture et de lecture d'un texto, c'est 4 secondes. Donc moi, je travaille pas mal par texto, parce que sans en faire de trop, je sais que l'information, elle est passée. Même si les gens répondent pas, au moins je sais que voilà, dans les 4 secondes, la plupart des gens, ou des 5 minutes même, ont vu mon texto, donc ont eu l'information. Donc j'ai des listes de textos, et ça, ça me permet de gagner du temps, également du temps physique. Voilà donc ce que je voulais vous dire sur la partie temps physique et puis sur la partie temps mental. La partie temps mental, c'est peut-être la plus importante parce que votre gestion du temps mental vous permettra de gagner énormément en efficacité sur votre temps physique. Alors la gestion du temps mental, c'est tout simplement savoir ce qui se passe dans notre tête. Ce qu'il faut comprendre, à mon sens, c'est que plus vous êtes serein, moins vous êtes stressé, plus vous êtes efficace. Et la gestion du temps mental, c'est de savoir... Est-ce que dans ma tête, j'ai plus de positifs ou de négatifs ? Est-ce que j'ai plus de rêves et d'objectifs que de doutes et d'appréhensions ? Est-ce que je suis en train de penser à mes problèmes du quotidien ? Ou est-ce que je suis en train de penser à tout ce qui me motive à faire, à construire pour demain ? Plus vous allez avoir de positifs et plus vous allez retirer le négatif, plus ça va fonctionner. L'efficacité, c'est plus je suis serein, moins je suis stressé, plus je suis efficace. Et pour ça, moi j'ai un premier conseil pratico-pratique à vous soumettre. C'est simple, souvent je fais ça dans le rendez-vous avec moi-même, je prends une feuille et je vide ma poubelle mentale. Mais de tout, de tout, de tout. En fait, pour que mon cerveau fonctionne, il faut que je sois concentré. Il faut être focus sur ce qu'on a à faire tout de suite et y être à 100%. Quand je suis avec quelqu'un, j'y suis à 100%. Mais pour y être à 100%, il faut que j'arrive à vider tout le reste de ma tête. Donc pour ça, je vais noter toutes les choses. Voilà, si vous voulez faire un premier grand rendez-vous avec vous-même annuel, c'est je vide ma tête de tous les projets de vie que j'ai envie de réaliser, tout ce que j'ai envie de faire. À côté de ça, je vais noter tous les trucs que j'ai besoin de faire au quotidien et que je traîne depuis un moment. Je sais pas, changer la clanche, l'ampoule, ranger le garage, aller chez le médecin, je dois faire un truc chez le dentiste, etc. Et tout ça, ça me prend une énergie mentale dans ma tête, il faut que je le vide, je le mets sur le papier. Et puis après, j'ai tout ce que j'ai à faire dans l'activité. Parce que qu'est-ce qui nous bouffe de l'énergie et du stress ? C'est des fois soit d'avoir un truc qui nous angoisse par rapport à un truc embêtant, soit d'avoir des choses qu'on traîne, qu'on doit faire, qu'on ne fait pas, et donc on est en train de s'auto-flageller et perdre de l'énergie parce qu'on se dit ce truc-là, je dois le faire depuis longtemps, donc je suis pas efficace. Et si je suis pas efficace, c'est pas bon. Donc je note tout ça sur ma feuille. Après, moi, à titre personnel, je le classe dans mon OmniFocus, c'est un des programmes. Il y a un rappel aussi, vous pouvez trouver des trucs de gestion, mais dès que j'ai un truc voilà, qui me vient à l'esprit, je vais sortir mon téléphone et je vais sur cette application et je le mets tout de suite dans mon téléphone. C'est vidé de ma tête, c'est marqué, je sais que je vais pas l'oublier, c'est là. Et pour que ça fonctionne bien, il faut pas que ce soit des mots, mais il faut que ça commence toujours par un verbe d'une action à faire. Appeler Michel, prendre rendez-vous chez le mécanicien ou le carrossier. Mais il faut les sortir de sa tête, faut tout sortir pour n'avoir plus rien. Tout est noté, de toute façon vous pouvez pas l'oublier, c'est noté. Et après, il faut trouver un système de classement. Parce qu'il y a plein de boîtes d'entrée entre les textos, les mails, etc. Pas rentrer dans les détails, parce que pour chacun, ça va être différent. Mais il faut arriver à, par exemple, dans les mails, soit vous les traitez tout de suite, soit il faut un système pour dire ce truc-là, faut pas que je l'oublie, quoi. Et si vous avez pas, moi, c'est simple, j'ai un truc où je clique dessus, ça me le met dans un dossier à faire. Et ma boîte d'email est quasiment tout le temps vide, où j'essaye. C'est-à-dire que moi, j'ai une boîte de mails vide. Parce que tous les mails sont immédiatement copiés dans une deuxième boîte de réserve. et je les traite. Si c'est traité, j'efface. Si c'est pas traité, je mets mon drapeau et ça va dans une autre boîte. Parce que j'ai besoin de le travailler comme ça. Après, je classe tout sous forme de projet ou de contexte. C'est-à-dire, soit les choses rentrent dans un projet, soit dans un contexte. Contexte Michel Labazor, contexte réunion du 5 mai, contexte je suis à Caen, contexte je vais être au téléphone. Ça, c'est un contexte dans lequel je vais pouvoir faire des choses. Et les projets, bah, je sais pas, par exemple, le banquet gaulois, c'est un projet dans lequel il y a des actions, qui commencent tous par un verbe. Le voyage à Marrakech, il y a des actions. Réserver les billets d'avion. Donc, vous devez tout classer sous forme de projet ou d'action. Et après, une action, il y a quatre possibilités. Une fois que vous avez fait tout ça, ça va être le dernier gros point pour cette partie, c'est une action, il y a quatre possibilités à cette tâche. C'est 1, je la fais tout de suite. 2, je la délègue. 3, je la reporte. 4, je l'élimine. Donc, si quelque chose prend moins de 5 minutes, faut vous dire, il faut absolument que je le fasse maintenant, quoi. Parce que sinon, je procrastine. Si je peux faire quelque chose tout de suite, faut que je le fasse tout de suite. Sinon, je vais repousser à demain et ça va me prendre de l'énergie et ça va créer un sentiment d'auto, je vais perdre de la confiance en moi parce que je n'ai pas fait cette chose que je pouvais faire tout de suite. Et donc, il faut faire gaffe parce que ça, c'est le plus difficile. C'est Jean-Claude qui avait fait une intervention comme ça, il mettait partout FLM, fais-le maintenant, fais-le maintenant. Voilà, dès que j'ai quelque chose que je peux faire rapidement, je le fais maintenant. Deuxième point, je le délègue. La délégation, c'est un point intéressant, mais il faut faire attention. Parce que il faut apprendre à déléguer pour aider les gens à grandir, pour leur donner des tâches. Mais déléguer ne veut pas dire se décharger. Les corvées ne se délèguent pas, elles se partagent. Vous voyez ce que je veux dire? Des fois, c'est tellement plus facile de refiler le cadeau à quelqu'un d'autre. Voilà, c'est important de déléguer à condition que la personne, elle soit pas juste là pour être un souffre-douleur. Et déléguer, c'est quoi? C'est expliquer clairement ce qu'on attend de la personne pour cette tâche. Parce que des fois, on n'est pas content, on dit « Ouais, je vais déléguer quelque chose, il l'a pas bien fait. » Mais est-ce qu'on a vraiment pris le temps de lui expliquer ce qu'on attendait de lui? Thomas, je vais déléguer la technique. Hier, il dit « Tu m'expliques, hein, parce que moi, je fais pas comme ça. » Je dis « Ok, on va expliquer, on va prendre le temps. » Et on a travaillé jusqu'à 1h du mat là-dessus. Savoir quelle musique il met à quel moment, si ce soir, il est pas bien, parce qu'on l'a travaillé ensemble. Puis après, on va débriefer. Mais il faut apprendre à déléguer des choses, parce que c'est comme ça qu'on fait grandir les gens. Déléguer ne veut pas dire se décharger. Les corvées ne se délèguent pas, elles se partagent. Et après, on peut débriefer. Et pour pouvoir aider les gens à progresser, bah, dans la délégation, on peut justement échanger. Alors, comment tu as vécu les choses? Est-ce que ça s'est bien passé ou pas? Et c'est une des façons de gagner du temps, de faire grandir. Et au départ, moi, j'avais beaucoup de mal à déléguer. Michel, plein de fois, il me disait « fais faire ça ». Pourquoi? Parce que je me disais « si c'est pas moi qui le fais, ça sera moins bien fait que si c'est moi qui le fais ». Et oui, c'est moins bien fait que si c'est moi qui le fais. Mais tout seul, je peux en faire bien moins qu'avec nos agendas respectifs mis côte à côte. Donc, il faut apprendre à déléguer des choses parce que c'est ce qui va vous permettre de gagner du temps. Sinon, l'éliminer, si c'est pas important, je l'élimine après avoir vérifié si j'ai pas besoin de le stocker. Par exemple, dans les mails, faut pas éliminer tous les mails en disant, bah, celui-là, j'en ai pas besoin tout de suite. Faut quand même avoir trace au cas où. Au cas où, on en aurait besoin à un autre moment. Et puis, je reporte, et ben, il faut justement un système où vous reportez ça dans un agenda. Bah, par exemple, un coup de fil, je le fais avec quelqu'un, on demande de se rappeler. Il faut que je puisse avoir un système. Moi, encore une fois, je fonctionne avec mon programme qui me permet de pouvoir le reporter à plus tard. Est-ce que ça vous paraît clair, ça? Mais plus vous allez arriver à vider votre tête, vous allez être concentré sur ce que vous allez à faire, vous allez gagner en efficacité, mais à 200-300%. Et on peut tous démultiplier par 3 ou 4 son efficacité. Vraiment, je plaisante pas. Moi, j'ai vu des journées où j'arrivais à faire 50 ou 60 coups de fil tout en gérant mon quotidien, etc. parce que j'arrivais à mieux maîtriser mon emploi du temps et la gestion de mon temps. Et je conclurai là-dessus, c'est que la maîtrise de son temps, c'est la maîtrise de sa vie. La maîtrise de sa vie, quelque part, c'est redécouvrir une passion de vivre. Et redécouvrir une passion de vivre, bah, je pense que quelque part, le monde est entre les mains des gens passionnés. Le monde n'est pas entre les mains des gens qui se plaignent. Écoutez les gens se plaindre autour de vous. Ils pleurnichent comme des faibles, les gens, alors qu'ils ont possibilité de faire une différence. Le monde n'est pas entre les mains des tièdes. Le monde n'est pas entre les mains des gens qui subissent. Le monde est entre les mains des gens passionnés qui font des choses, qui ont les yeux qui brillent, qui ont envie de conquérir et qui ont envie de se battre pour la passion de tout ça.